Bienvenue à tous et chacun. On est tellement content que vous êtes ici ce matin. Vous savez, on est tellement content quand on a un beau service comme ça, avec un service de baptême, où des gens viennent en avant donner leur, raconter leur histoire. C'était des beaux témoignages, n'est-ce pas? Quel beau témoignage pour Dieu, parce que dans le fond, ils ont raconté ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ça me rappelle des souvenirs. C'est à peu près à cet âge-là, Anna. J'avais à peu près ton âge quand j'ai accepté le Seigneur et moi aussi me suis fait baptiser. Alors, félicitations à tous les candidats qui se font baptiser aujourd'hui. Une belle journée. Vous savez, aujourd'hui, ça vaut la peine de prendre le temps comme ça et d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Il me semble que la vie est tellement pressée. Vous ne trouvez pas que c'est tellement vite aujourd'hui? Il y a une dame qui arrive justement de la Sarre que j'ai rencontrée tantôt et puis elle me racontait qu'elle vient de déménager ici à Longueuil. Et puis déjà, elle s'est fait prendre dans le trafic et puis elle n'a même pas pu rentrer ici. Je pense la première fois qu'elle a essayé de rentrer. Là. C'était tellement vite, c'est rapide ici, hein? C'est la ville. Et on vit une vie tellement rapide et on a de la misère à s'arrêter un petit peu et réfléchir sur ces grandes questions, justement, qu'Anna parlait et d'autres ont parlé. D'ailleurs, laissez-moi vous raconter ce qu'un monsieur dit. On vit tellement dans un monde rapide que c'est plus juste rapide, on appelle ça exponentiel, tellement que ça se multiplie, ça va de plus en plus vite. Regardez bien ce qui se passe autour de nous, vous allez voir tout de suite la vitesse du monde en ce moment et comment ça va vite. En 2006, on parle juste il y a 2 ans passés, il se faisait 2,7 milliards de recherches à tous les mois sur Google. 2,7 milliards à tous les mois il y a à peine 2 ans. Aujourd'hui, à chaque mois, il se fait, juste 2 ans plus tard, 31 milliards de recherches à chaque mois. Regardez bien la technologie, comment ça va avancer vite. En une seule journée, il s'envoie plus de messages textes qu'il y a de personnes sur la Terre, sur la planète. On reçoit plus d'informations dans une semaine du journal du New York Times qu'on en recevait toute notre vie quand on vivait au 18e siècle. Une semaine, il y a plus d'informations qu'on reçoit qu'on en recevait toute notre vie au 18e siècle. On va recevoir plus d'informations cette année, d'accord, qu'on en a reçu dans les derniers 5000 ans. Est-ce que ça vous montre un petit peu la vitesse que ça va autour de nous autres? La quantité de nouvelles informations et techniques double aux 2 ans. Ce que ça signifie, c'est que la moitié, je ne veux pas vous décourager les jeunes qui étudient au cégep à l'université, ça veut dire que la moitié de l'information qu'un étudiant reçoit dans sa première année d'une technique de 4 ans sera dépassée après 3 ans d'études. Imagine, la compagnie japonaise NTT, Nippon Telegraph et Telephone, vient de tester avec succès une nouvelle fibre optique qui pourra pousser plus de 14 trillions d'informations à la seconde dans une seule fibre optique. Ça, c'est l'équivalent du contenu qu'on peut emmagasiner dans 2660 CD ou 210 millions d'appels téléphoniques à la seconde. Une fibre. Ça va tripler aux 6 mois et ça va continuer de tripler aux 6 mois dans les prochains 20 ans. Incroyable, le monde qui s'en vient, hein? On prévoit construire un ordinateur hyper puissant d'ici 2013 qui va dépasser la capacité qu'un cerveau peut emmagasiner, un cerveau humain. D'ailleurs, on prévoit que dans 40 ans, un ordinateur de 1 000 $ va pouvoir emmagasiner plus d'informations qu'on peut emmagasiner que toutes les personnes qui vivent sur la Terre en ce moment dans leur cerveau peuvent emmagasiner. Ça va coûter 1 000 $. Incroyable. avec toute cette ère technologique. Et à quelque part, c'est excitant de voir ces découvertes, jusqu'où on va aller. Mais en même temps, tout ça nous oblige à travailler plus vite et plus fort et plus vite. Quand on a inventé la technologie, on disait, ah bien tiens, on va pouvoir être plus tranquille, on va travailler moins fort, on va travailler moins d'heures, parce que les ordinateurs nous permettent de faire beaucoup plus qu'avant. Faux, c'est les statistiques démontrent que depuis que c'est inventé, on travaille encore plus fort et plus vite. Donc, mes chers amis, on vit dans une vie pas juste rapide, mais une vie exponentielle, et ça va continuer à aller de plus en plus rapide. Ouf, je suis essoufflé juste vous raconter ça. Ça va vite. D'ailleurs, on se pose la question, ça va tellement vite autour de nous qu'à quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre l'essentiel? C'est la question que le journal Washington Post s'est posée l'an passé. Ils ont dit, on vit à un rythme tellement rapide qu'on va faire une expérience. Alors, le journal Washington Post a décidé de demander à l'un des plus grands violonistes au monde, un virtuose du nom de Joshua Bell, de faire une expérience, d'aller dans une station de métro à Washington, en plein cœur de la ville, où plusieurs employés qui travaillent juste au gouvernement passent par cette station, et de lui demander anonymement d'aller se présenter à une station de métro juste là, juste dans le centre d'achat qu'ils appellent le Infant Plaza à Washington. Et c'est ce qu'il a décidé, il a accepté de le faire. Maintenant, il faut comprendre, mes chers amis, ce gars-là, c'est l'un des meilleurs violonistes au monde. 3 jours avant cette expérience-là, des gens ont payé 200 $ le billet pour aller écouter jouer Joshua Bell dans un concert à Boston. Ce gars-là, quand il joue du violon, il joue du violon à 1 000 $ la minute. Alors, cher Joshua Bell a accepté très humblement de tenter l'expérience. Alors, ce qu'il a fait, un vendredi très occupé, il y avait la foule en plein milieu de l'heure de pointe à 8h-10 le matin. Vendredi matin, c'était gris à l'extérieur. Alors, il s'est pointé là en jeans, T-shirt puis une casquette. Alors, il rentre dans la station de métro, s'installe avec son étui et a un violon à l'intérieur de l'étui, un Stradivarius qu'il a acheté lui-même quelques années avant et qui vaut 3,5 à l'époque. Il l'a acheté pour 3,5 millions de dollars et qui vaut encore plusieurs millions aujourd'hui. Alors, il sort ce violon en T-shirt, jeans, casquette, puis commence à s'installer juste à l'entrée de la station où tout le monde passait à quelques pieds de lui. Alors, commence à jouer, et la première pièce qu'il joue, l'une des pièces, c'est un chef-d'œuvre de Bach, et c'est l'une des pièces qui est la plus difficile à jouer sur le violon, surtout en ce qui concerne le solo. Il y a un solo dans la pièce, et c'est l'une des pièces. Certains disent même que c'est la plus difficile à jouer. Et tout de suite, d'entrée de jeu, commence à jouer ce violon. Et on peut l'entendre en passant. Je vous ai donné le site Internet pour entendre jouer. Et ils ont filmé cette expérience-là dans le bulletin. C'est juste là, après, vous allez avoir mon nom et le titre. Vous n'avez pas besoin d'aller là tout de suite. Vous allez pouvoir partir tantôt. Et vous allez pouvoir faire l'expérience après-midi et voir l'enregistrement. Vous allez pouvoir voir l'enregistrement. Ils ont décidé, c'est toute une expérience que Washington a fait. D'ailleurs, Washington Post raconte toute cette expérience-là. Il a commencé à jouer de ce violon, et on le voit d'ailleurs par la vidéo, comment le violon est riche, le son est fort et tout ça. Et il a joué pendant 43 minutes, 6 pièces classiques qui sont reconnues par les experts comme étant les plus grands chefs-d'œuvre qui soient. Savez-vous ce qui s'est passé? Voulez-vous le savoir? Il a joué pendant 43 minutes. 1100 personnes sont passées devant lui, à 3 pieds de lui. Maintenant, pour encourager les gens à donner, il a ouvert son étui, il a mis ça à terre, puis il a mis de sa poche quelques dollars là, pour encourager les dons. puis encourager les gens à donner de l'argent. Donc, les gens passaient à trois pieds de lui, comme ça, puis ils voyaient bien l'argent, puis lui, il jouait, puis s'en allait avec son violon, puis il jouait un chef-d'œuvre. 1100 personnes ont passé en 43 minutes, et savez-vous combien de personnes se sont arrêtées ce matin-là pour l'écouter? 7 personnes sur 1100 personnes. Vous allez dire, oh, mais ils sont bien occupés, ils s'en vont travailler. Je m'excuse. Il y avait un comptoir de billets de loterie pas très loin et les gens sont allés attendre là pendant plusieurs minutes, faire la file d'attente. Ils ont même pas tourné la tête pour voir qui jouait. 7 personnes. Ça a tellement été un choc. Le Washington Post a tellement été scandalisé de cette expérience-là qu'ils ont même fait des entrevues, ils ont posé un paquet de questions. Vous pouvez voir toute l'expérience dans le Washington Post, l'adresse que je vous ai donnée. Et là, ils se sont posé la question, dans quel genre de vie sommes-nous en train de mener? Ils ont cité cet auteur qui résume bien ce qui s'est passé, et voici la conclusion de l'expérience. Et c'est très bien résumé par un auteur de John Lake qui a écrit un livre, « Beauté éternelle », et voici ce qu'il dit. En passant, il a reçu 32 $. Un gars habitué de jouer pour 1000 $ la minute. John Lake a dit ceci, « Si on ne peut même plus prendre un moment de notre routine pour entendre l'un des meilleurs musiciens au monde, interpréter certaines des œuvres les plus magistrales jamais écrites. Si notre vie moderne est si mouvementée que nous sommes rendus sourds et aveugles à de tels chefs-d'œuvre, alors quelle autre chose sommes-nous en train de manquer? Quelle autre chose sommes-nous en train de manquer? Est-ce que notre vie est tellement rapide, tellement trépidante, c'est tellement un tourbillon, qu'on est en train de manquer l'essentiel et le plus beau? Sommes-nous en train de manquer le plus important? Sommes-nous en train de manquer les chefs-d'œuvre? J'aimerais vous suggérer, mes amis, que nos vies sont si gruyantes, si rapide et que nous vivons à un rythme si effréné que nous sommes peut-être en train de manquer l'essentiel, de manquer le plus beau. C'est la conclusion de fait de cette expérience de Washington, c'est que c'est tellement rapide qu'on est en train de manquer le bateau sur des choses essentielles. La Bible parle d'un chef-d'œuvre. La Bible parle du chef-d'œuvre de Dieu. C'est résumé en un seul verset qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, verset 16. Dieu a réalisé le plus grand chef-d'œuvre jamais réalisé. Et le voici en quelques mots, et ça se trouve dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le chef-d'œuvre de Dieu. Dans quelques jours, nous allons célébrer Noël et nous voulons nous réunir en famille, célébrer ce grand événement. Mais derrière Noël, c'est quoi Noël? C'est que nous voulons célébrer Dieu qui a envoyé son Fils unique ici, prendre notre place sur la croix afin de sauver le pécheur. Voilà le chef-d'œuvre de Dieu, mes amis. Voilà pourquoi il vaut la peine de devenir un chrétien. Tous ces candidats ce matin sont venus ici donner leur témoignage comme quoi qu'ils ont pris une décision un jour dans leur vie. Certains, ça a pris un peu plus de temps que d'autres, mais les 4 ont déclaré publiquement avoir pris cette décision dans leur vie de dire oui à Jésus et de suivre le Seigneur. L'apôtre Paul qui écrit à une église, à certaines personnes qui ont fait comme ces quatre candidats au baptême ce matin. Certaines personnes dans une ville de Colosse avaient décidé eux aussi de suivre Jésus, de dire oui à Christ, de mettre leur vie entre les mains de Jésus-Christ. Alors Paul leur écrit, et ce qu'il dit déjà dans le premier chapitre de sa lettre, c'est qu'il donne deux raisons pour lesquelles il vaut la peine de devenir un chrétien. La première, ce sont les avantages. Oui, il y a des avantages de devenir un enfant de Dieu. Et Paul est tout content, tout heureux. Il se réjouit, comme on a vu la joie ici dans ces quatre candidats ce matin. Il y a une joie quand tu deviens chrétien. Et Paul a cette joie-là lorsqu'il écrit à ce groupe de croyants dans la ville de Colosse. Et voici ce qu'il dit. Il va faire ressortir des avantages de devenir un chrétien et de s'en réjouir. Premièrement, il dit au verset 12, Colossiens 12, voici ce qu'il dit. Il dit « Rendez grâce au Père, rendez grâce à Dieu, gardez cette attitude de reconnaissance envers Dieu. Vous qui êtes devenus des chrétiens, parce qu'il s'adressait à des gens qui avaient pris la même décision que ces personnes ce matin. Il dit « Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des enfants de Dieu. » Voyez-vous, nous découvrons en lisant les Écritures saintes, en lisant la Bible, que Dieu bénit d'une façon spéciale, fait du bien d'une façon spéciale à ses enfants. Ce n'est pas qu'on le mérite. D'ailleurs, Paul le dit bien, c'est Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à tous les bienfaits que Dieu veut accorder à tous ceux qui lui appartiennent. C'est une œuvre de Dieu, ça vient de lui. C'est lui qui pose le geste, ce n'est pas nous. Ce n'est pas parce qu'on est bon, pas du tout. C'est justement une grâce. C'est un mot qu'on a entendu ce matin. Une grâce, c'est juste Dieu qui décide, pas qu'on le mérite, qui décide à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus, en son Fils, de leur faire cette grâce, de leur faire du bien. Et Paul est en train de dire que l'un des avantages, premier avantage de devenir un chrétien, que tout d'un coup, on fait l'objet de bonté spéciale. Il y a même un héritage de préparer pour ceux qui appartiennent à Jésus. Premier avantage d'être un enfant de Dieu, d'être un chrétien, c'est qu'on prend part au bien. Il y a un héritage que l'on reçoit. Deuxième, c'est que les chrétiens font partie d'une nouvelle famille. On le voit, on l'a vu ce matin. C'est une famille, c'est l'Église. Et quel privilège de savoir qu'il y a des gens dans cette famille qui prient pour moi, qui se soucient de moi, qui se soucient même de ma croissance spirituelle, qui vont m'aider, m'accompagner dans mon cheminement de foi. Et ça, c'est une autre grâce, c'est un autre bienfait. D'ailleurs, nous lisons verset 13, que Dieu délivre tous ceux qui viennent à Jésus-Christ de la puissance des ténèbres et nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous faisons partie du royaume de Dieu. C'est ça que la Bible dit. Deuxième avantage, nous avons été délivrés. Et la Bible dit bien que nous sommes pris lorsque, de par notre propre nature, nous avons cette nature pécheresse. Mais en plus, il y a des forces, une puissance des ténèbres aussi qui veut nous éloigner de Dieu et nous faire du mal. Dieu dit, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, il nous délivre de cette puissance-là et nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, le premier avantage d'être un chrétien, c'est qu'on a part au bien de Dieu et on a un héritage qui est préparé pour nous et on a également une nouvelle famille. Mais ça continue. Nous lisons aussi que les chrétiens, ceux qui deviennent chrétiens, sont aussi pardonnés. Nous avons besoin d'être pardonnés avec Dieu. Nous lisons dans Romains 3, 23 que nous avons tous péché. Nous lisons dans Romains 6, 23 que non seulement que nous avons tous péché, mais à cause de ce péché, nous sommes séparés d'avec Dieu. Mais Dieu veut avoir cette relation intime avec nous. Et c'est impossible d'avoir cette relation parce que nous avons violé la loi de Dieu. Nous avons violé ses commandements, sa volonté. D'ailleurs, le mot péché, qui n'est pas très populaire aujourd'hui, veut dire littéralement, nous avons manqué la cible. Nous avons manqué l'essentiel, pour revenir à ce que nous avons vu au début. Nous manquons l'essentiel parce que Dieu nous a créés pour avoir une relation intime avec lui. Et lorsqu'on tasse Dieu de notre vie, c'est le plus grand péché qui soit parce que nous avons été créés pour ça. Voyez-vous, et la conséquence de ça, c'est cette mort spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a décidé d'envoyer son Fils, aller à la croix et prendre sur lui tous les châtiments et toute la colère que Dieu avait dans son cœur parce qu'on l'a tassé de notre vie, on a voulu faire à notre tête, on ne voulait rien savoir de Dieu. Et tous ces péchés-là font que là, on mérite un châtiment de la part de Dieu. Mais Dieu a décidé de transférer tout ce châtiment sur les épaules de son propre Fils. C'est la raison pour laquelle celui qui vient à Jésus-Christ reçoit le pardon de Dieu. Celui qui croit que Jésus-Christ est allé à la croix pour mes péchés, celui-là qui demande à Jésus-Christ d'entrer dans sa vie, Dieu lui donne la vie éternelle. Quelle assurance! Alors, il y a des avantages à devenir un chrétien, voyez-vous? Il y a des avantages. Il y a des biens qui appartiennent à ceux qui appartiennent à Dieu. Il y a un héritage de préparer pour eux. On a une nouvelle famille. On a le pardon de Dieu. Mais il y a une seconde raison aussi de devenir un enfant de Dieu, pour venir à lui. C'est Jésus-Christ lui-même, juste la personne de Christ, qui est Jésus. Paul va continuer sa lettre en écrivant dans Colossiens 1, verset 15. Laissez-moi vous lire une portion de ce qu'il dit et on va revenir là-dessus. Paul, en fait, va donner sept caractéristiques de Jésus-Christ. On n'aura pas le temps de tous les voir, je vais juste en faire sortir quelques-uns, pour démontrer la splendeur et la supériorité de Jésus-Christ. En d'autres mots, venir à Jésus, tu ne te trompes pas. Tu ne fais pas une erreur. Et tu vas le voir en lisant ça, comment Jésus est supérieur à tout. Colossiens 1,15 dit ceci, « Le Fils, Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier à lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, vous là qui, avant que vous acceptiez Jésus-Christ dans votre vie, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Pourquoi Jésus est la réponse? Pourquoi pas un autre? Parce que Jésus est supérieur à tout. Il est supérieur à la création, il est supérieur à tout. Jésus est le Créateur, c'est lui qui a tout créé. Jésus t'a créé, nous disent les Écritures. Jésus est ton Créateur. Voyez-vous, lorsque vous choisissez de suivre Jésus-Christ, que vous l'invitez dans votre vie et vous l'acceptez comme sauveur personnel, vous n'êtes pas simplement en train de suivre un bon enseignant que serait Jésus. C'est beaucoup plus que ça. Vous êtes en train de vous connecter avec le Dieu de l'univers. Vous êtes en train de vous connecter avec le Créateur, celui qui détient l'autorité, celui qui détient le pouvoir. C'est lui, vous êtes en train de vous brancher à lui, de vous connecter à Dieu lui-même. Donc, ce n'est pas juste qu'on suit un grand modèle qui est Jésus-Christ. Vous êtes, en suivant Jésus-Christ, vous êtes en train de vous connecter à Dieu lui-même. Deuxièmement, tout existe pour Jésus. Verset 16 le dit, non seulement que tout a été créé par lui, mais tout a été créé pour Jésus-Christ. Si tu existes, c'est que tu as été créé pour plaire à Dieu. Que ta vie honore le Seigneur Jésus. Et on découvre dans les Écritures saintes que c'est là que se trouve le vrai bonheur. Ce n'est pas une question de devoir. Oui, certainement, on lui doit tout. Mais c'est une question que quand tu viens à Jésus-Christ, tu commences à le suivre, tu t'aperçois que le vrai bonheur, c'est là. que tu deviens heureux dans ton cœur dans la mesure que tu suis le Seigneur. On cherche le bonheur partout alors qu'il se trouve en Christ. Il est là le bonheur. Troisièmement, Jésus est la source de la vie éternelle, nous dit le verset 18. Jésus est la réponse, non seulement parce qu'il a tout créé, non seulement que tout a été créé pour lui, mais non seulement ça, il est la source de la vie éternelle, nous dit le passage. C'est là que se trouve la vie éternelle. Tu vas avoir cette assurance que quand tu vas mourir, tu sais où tu t'en vas. Je le disais, le témoignage, l'autre jour, j'entendais plutôt le témoignage d'une femme à la radio qui a 95 ans et qui a une peur atroce de mourir parce qu'elle ne sait pas où elle s'en va. La Bible dit que si tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu vas savoir où tu t'en vas. Amen. Quelqu'un qui met sa foi en Jésus-Christ obtient la vie éternelle. Dès qu'il meurt, il entre dans la présence de Dieu pour jouir pendant l'éternité dans sa présence. Et c'est pour ça qu'on aimerait vous encourager aujourd'hui à venir à Jésus-Christ. C'est pour ça que ces candidats aujourd'hui, ils ont compris ça, qu'une vie sans Jésus, c'est tout à fait le contraire de ce que Jésus propose ici. S'il est vrai qu'on gagne à venir à Jésus-Christ, on perd à ne pas venir à lui. On perd gros. Mais on aimerait vous encourager à venir à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est la réponse. Si vous voulez entendre un témoignage ce matin, un beau témoignage d'un homme qui a pris la décision justement de venir à Jésus-Christ, un homme qui avait tout, absolument tout, la richesse, la gloire, un homme du nom de Tony Anthony, et trois fois champion du monde de Kung-Fu. Il avait la gloire, la richesse, il avait tout ce qu'il désirait. Et pourtant, un gars le plus malheureux qui soit. On aimerait vous faire un cadeau ce matin, si vous êtes parmi les invités, vous êtes ici pour la première fois, on aimerait vous donner un cadeau ici, l'œil du tigre. D'ailleurs, le témoignage de Tony Anthony est tellement puissant qu'ils ont décidé de faire un film. Ils vont faire une grosse méga-production de 35 millions de dollars sur sa vie. On aimerait vous encourager à aller, on aimerait vous offrir ça en cadeau ce matin. Faites juste lever la main si vous êtes ici. Si vous êtes un invité, déjà il y a des gens qui lèvent leur main. Si vous êtes ici pour la première fois, on vous l'offre, c'est gratuit. Et puis, prenez le temps de lire ça cette semaine, le témoignage très puissant de ce Tony Anthony qui a décidé de tourner sa vie du tout au tout en donnant sa vie à Jésus-Christ. D'accord? Que Dieu vous bénisse.